Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, le secrétaire général au Tadjikistan, réunion du Conseil de sécurité sur la Côte d'Ivoire, poursuite des pourparlers entre les parties libyennes, le HCR s'inquiète de l'afflux record de migrants en Grèce, ouverture de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, au Burundi, le haut commissaire aux droits de l'homme s'inquiète du risque de basculement dans le pays, enfin dans Voix de Femmes, le point sur le rôle de la diaspora haïtienne. Au Tadjikistan, le secrétaire général a participé ce mardi à la conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de la décennie internationale d'action « L'eau, source de vie ». Dans ses remarques, Ban Ki-moon a déclaré que la crise de l'eau représente un des risques les plus importants à l'échelle mondiale. L'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène comptent non seulement parmi les plus importantes priorités de développement des États, a-t-il affirmé, mais sont également des droits de l'homme. Les explications de Stéphanie Coutrix.
À Dushanbe, le secrétaire général a dénoncé le fait qu'au XXIe siècle, 2,5 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires adéquates. 1 milliard de personnes sont contraintes de déféquer à ciel ouvert. Et près de 1000 enfants sont tués chaque jour par une combinaison toxique d'eau et d'assainissement de mauvaise qualité. En tout, la mauvaise qualité de l'eau et de l'assainissement coûte 260 milliards de dollars par jour à l'économie mondiale. Ban Ki-moon a aussi averti que dans tout juste 10 ans, 1,8 milliard de personnes vivront dans des régions où l'eau sera véritablement rare. Le secrétaire général a aussi parlé de sa visite il y a 5 ans en mer d'Aral, une des pires catastrophes environnementales créées par l'homme, et a jugé crucial d'atteindre un consensus sur la gestion des ressources hydriques en Asie centrale.
Le Conseil de sécurité s'est réuni ce matin pour examiner la situation en Côte d'Ivoire à 4 mois de l'élection présidentielle prévue en novembre 2015. Devant les 15, la représentante spéciale du secrétaire général pour la Côte d'Ivoire a indiqué que des avancées avaient été constatées sur le plan du dialogue politique, de la situation sécuritaire, des réparations aux victimes ou encore de la lutte contre l'impunité. Aïchatou Mindaoudou a toutefois estimé qu'il faut rester vigilant et a souligné l'importance du renouvellement du mandat de l'ONUCI, la mission onusienne sur place pour accompagner le pays dans ce tournant décisif.
Le renouvellement du mandat de l'ONUCI à cette étape importante illustrera encore une fois la volonté de la communauté internationale à consolider les acquis et à accompagner le pays à tourner la page de la crise post-électorale de 2010. La création d'un environnement propice et apaisé avant, pendant et après l'élection présidentielle nécessitera aussi des avancées au niveau du dialogue politique, dans le processus de désarmement, dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité, de la justice, de la réparation des victimes et du retour des réfugiés. À cet égard, le soutien conjugué du Conseil de sécurité, des États membres, des partenaires régionaux et internationaux, de l'ONUCI et de l'équipe pays du système des Nations Unies demeure essentiel pour que la Côte d'Ivoire conduise sans désemparer jusqu'à leur terme tous ces processus clés.
Des pourparlers ont débuté lundi à Chicrate au Maroc sous l'égide de l'ONU pour rassembler autour d'une même table les différentes parties libyennes. Le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye avait récemment demandé aux participants de parvenir à un accord avant le début du mois de Ramadan. À l'issue de ces nouveaux pourparlers, Bernardino León a souligné que cela pourrait mener à un triple consensus entre la société libyenne, les participants au dialogue et la communauté internationale. Tsige Chiferao.
Bernardino León, le représentant spécial des Nations Unies en Libye, a indiqué dans son discours lundi 8 juin qu'un nouveau projet de résolution avait été distribué pour une tentative de résolution pacifique au conflit qui secoue le pays depuis 2011. Selon Bernardino León, le projet actuel suggère une structure pour un gouvernement intérimaire. Il vise aussi à donner des outils nécessaires pour gouverner efficacement tout en s'assurant que l'équilibre des pouvoirs soit respecté. Le représentant a aussi précisé que l'engagement et l'appui des différents groupes armés étaient cruciaux. Sans la participation, la stabilisation du pays serait difficile à atteindre. Il a aussi exhorté les différentes parties consultées à vite prendre une décision alors que le pays est confronté à une situation économique et sécuritaire grave. Enfin, il a ajouté qu'il allait se rendre en Allemagne où une importante rencontre est prévue avec la communauté internationale et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité en particulier.
Le Haut Commissariat pour les réfugiés s'inquiète de la pression croissante sur l'île grecque de Lesbos de l'afflux record de réfugiés. Selon le HCR, environ la moitié des 600 réfugiés qui arrivent chaque jour dans les îles grecques débarquent à Lesbos. Le nombre de réfugiés arrivés dans l'île est passé de 737 en janvier à plus de 7200 en mai. arrivées qui se font dans le contexte plus général de mouvements migratoires records en Méditerranée. Les explications d'Alpha Diallo.
Depuis le début de l'année, plus de 100 000 migrants et réfugiés ont débarqué en Europe via les côtes méditerranéennes. La dernière vague est arrivée ce week-end au sud de l'Italie, où 6 000 personnes ont été sauvées par des gardes-côtes italiens dans le cadre de l'opération européenne Triton. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 54 000 migrants sont arrivés en Italie, tandis que 48 000 ont rejoint la Grèce. Parmi ceux qui tentent cette périlleuse traversée méditerranéenne, il y a des enfants et des femmes enceintes. Généralement, les Érythréens, les Somaliens, les Syriens et les ressortissants d'Afrique de l'Ouest se tournent vers l'Italie. En Grèce, les groupes les plus représentés sont les Syriens, les Afghans et les Irakiens. Autre enseignement, les voies maritimes sont désormais privilégiées par les réfugiés, alors que les frontières terrestres étaient depuis les années 2000 l'itinéraire choisi par les migrants pour rejoindre l'Europe.
La 8e session de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées s'est ouverte au siège avec pour objectif d'insérer les droits des près de 1 milliard de personnes handicapées dans le nouvel agenda de développement. La Convention a été ratifiée par 154 États membres, mais après presque 10 ans d'existence, il reste encore beaucoup à faire, constate Catalina De Vandes Aguiar, rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées.
La Convention a changé la réalité des personnes vivant avec un handicap à travers le monde. Avant la Convention, nous n'avions rien. Avec la Convention, nous formons partie de la communauté des droits de l'homme et il n'y a plus d'excuses pour nous exclure ou nous laisser de côté. Mais nous devons faire beaucoup plus. Il n'y a pas assez d'actions. Nous devons voir comment traduire la Convention en politique nationale qui bénéficieront les personnes vivant avec un handicap de façon concrète. Et nous sommes dans ce processus et je crois qu'avec cet outil qu'est la Convention, nous sommes sur le bon chemin.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Au Burundi, le haut-commissaire aux droits de l'homme redoute que les actions de plus en plus violentes et menaçantes d'une milice pro-gouvernementale fassent basculer le pays. Zahid Radal Hussein a d'ailleurs exhorté les autorités burundaises à prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre au pas cette milice. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Cécile Pouilly, porte-parole du haut-commissariat aux droits de l'homme.
Alors, ces actions qui sont en effet de plus en plus violentes sont de différents ordres. Il y a des exécutions sommaires. Nous avons aussi documenté des cas d'enlèvement, de torture, de coups et de nombreuses menaces de mort et différentes formes d'intimidation.
Et vous recevez 40 à 50 appels de gens terrifiés. Que vous disent-ils par rapport aux abus de cette milice ?
Ils nous appellent d'un peu partout dans le pays parce qu'ils ont peur, parce qu'ils cherchent une protection, mais aussi pour rapporter des abus. Ces allégations ont d'ailleurs été corroborées par nos différentes équipes au Rwanda et en République démocratique du Congo. Ces réfugiés nous ont également parlé des activités vraiment alarmantes et très menaçantes perpétrées par cette milice pro-gouvernementale au Burundi.
Par ailleurs, vous rappelez ce témoignage d'un réfugié de 19 ans de la province de Makamba. Finalement, est-ce que tous ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont menacés aujourd'hui au Burundi ?
Certaines personnes le sont. Ce réfugié de 19 ans a en effet expliqué que sa maison avait été attaquée, pillée de nuit par cette milice pro-gouvernementale et que son père avait été poignardé à mort parce qu'il avait refusé de rejoindre le parti au pouvoir. Nous avons reçu d'autres allégations absolument similaires.
Et des informations font état aussi de menaces écrites sur les portes ou murs des maisons.
Oui, c'est un développement absolument terrifiant, profondément effrayant au regard du passé du Burundi. De nombreux réfugiés nous ont déclaré avoir reçu des menaces qui avaient été écrites ou sur les murs ou sur les portes de leur maison. Ils ont aussi déclaré avoir vu ces mêmes signes sur les maisons d'autres personnes qu'ils connaissent. Il y en a notamment 4 personnes au Rwanda qui nous ont dit avoir vu des maisons marquées d'une croix qui serviraient, selon eux, soit à identifier des personnes qui doivent être prises pour cible ou tout simplement pour terroriser les gens. Et d'ailleurs, c'est une technique qui fonctionne très bien parce que ces gens ont quitté en urgence leur domicile pour se réfugier à l'étranger.
Est-ce que ces miliciens reçoivent des instructions au plus haut niveau de l'État ?
Nous avons en effet reçu des témoignages concordants qui indiquent que les membres de cette milice agissent en suivant les instructions du parti au pouvoir, mais également avec le soutien de la police nationale et des services de renseignement. Ces services de renseignement et la police leur fournissent des armes, des véhicules et parfois même des uniformes. Si ces allégations sont vraies, ne serait-ce que partiellement, elles indiquent de manière très claire un effort très très dangereux, très très grave pour accroître les peurs et les tensions. Et l'on voit qu'aujourd'hui, on a près de 100 000 réfugiés burundais à l'extérieur du pays et tous ceux qu'on a pu approcher, interviewer, nous ont parlé de la peur qu'ils ont de cette milice pro-gouvernementale.
Que redoutez-vous finalement par rapport à ce que vous venez de dire sur ces témoignages de réfugiés, de personnes civiles au Burundi ?
Vous savez, il y a la situation à Bujumbura et dans le reste du pays. Ce que l'on observe à Bujumbura, c'est un déploiement de forces, de police et d'armée extrêmement important dans les rues qui, sans doute, calme les ardeurs de démonstration des opposants au pouvoir. Pour autant, il faut s'intéresser également à la situation dans le reste du pays. Il y a énormément de rumeurs qui circulent. Il y a une situation extrêmement tendue. On parle d'arrestations la nuit. Les gens ont peur, sont effrayés, comme ils nous le disent. On a fait référence à ces nombreux appels que nous recevons chaque jour de personnes qui nous parlent de leurs craintes ou des abus qu'ils subissent. Donc on voit bien que la situation est extrêmement tendue, elle est vraiment très dégradée et ces actions de cette milice pro-gouvernementale pourraient tout simplement faire basculer le pays et le faire retourner vers une guerre civile. C'est ce que nous craignons à l'heure actuelle.
Voix de femme.
C'est souvent dans les moments les plus difficiles que les diasporas renforcent leurs efforts pour venir en aide aux membres de leur famille qui demeurent dans le pays d'origine. La diaspora haïtienne fait partie des communautés les mieux organisées et son poids économique sur l'économie nationale haïtienne n'est pas négligeable. Marie-Josée Monrose est directrice exécutive du groupe des associations régionales d'Haïti basé à New York. Elle parle du rôle de la diaspora de son pays.
Et la diaspora haïtienne, mais bien avant le tremblement de terre, a toujours été vraiment intéressée envers Haïti. Mais depuis 2010, la diaspora a vraiment adopté un rôle très actif en termes de provision de ressources, en termes de volontariat, en termes de partenariat et surtout en termes d'assistance économique.
Comment vous organisez-vous, par exemple, pour faire envoyer de l'équipement, par exemple, médical ou consort, depuis ici jusqu'à Haïti?
Bon, il y a des organisations qui sont en partenariat avec d'autres organisations multinationales qui arrivent à transférer leurs équipements en Haïti. Et également, nous utilisons le processus de cargo et pour envoyer ce qui doit être envoyé en tant qu'équipement lourd.
Est-ce qu'on sait à combien s'élève, par exemple, la contribution financière de la diaspora haïtienne aux États-Unis?
Le dernier chiffre, c'est 1,6 billion de dollars avec un B. C'est beaucoup d'argent.
Comment est-ce que cette aide a été intégrée par les autorités?
Nous devons considérer qu'il y a quand même une certaine faiblesse au niveau de notre gouvernement en Haïti, parce qu'il faudrait quand même inclure la diaspora dans certains rôles au niveau gouvernemental en Haïti. Mais nous ne sommes pas encore là, alors nous attendons et nous espérons parce que nous, en termes d'économie, nous participons ici et nous espérons également participer là-bas. Mais l'aide en Haïti est surtout répartie au niveau des associations régionales, au niveau des multinationales en Haïti et des organisations non gouvernementales.
Pensez-vous que le gouvernement se méfie de la diaspora?
Je ne le dirais pas. Je n'utiliserai pas le mot méfiance, mais j'utiliserai plutôt le mot réserve. Peut-être que le gouvernement a un peu de réserve quand il s'agit de la diaspora. Et la diaspora également a un peu de réserve quand il s'agit du gouvernement. Alors, des deux côtés, on est réservé. Alors, il nous faut trouver quand même un terrain commun pour pouvoir vraiment produire, pour pouvoir travailler ensemble.
Vous avez parlé donc de la contribution financière de la diaspora aux États-Unis qui s'élève à plus de 1 milliard de dollars. Savez-vous combien cela représente au niveau, par exemple, du budget national haïtien?
Non, pas que je puisse me rappeler maintenant, mais je pense que quand même ça ferait, je ne veux pas dire un chiffre, mais peut-être 2,6%, peut-être plus, mais c'est beaucoup.
Donc ça veut dire que le rôle de la diaspora est, pour ainsi dire, vital à l'économie haïtienne?
Haïti n'existerait pas sans sa diaspora. Alors, c'est tout ce que je veux dire, c'est tout ce que je peux dire. La diaspora est vitale pour la survie d'Haïti.
Et c'est avec Marie-Josée Monros que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain mercredi, même heure, même fréquence.